Pour la conférence de ce soir, donc le sujet sur lequel je vous propose qu'on échange, que je vous fasse une présentation, puis qu'on échange un petit peu autour, c'est le sujet du pouvoir et des opérateurs autour des réseaux de communication et plus particulièrement du réseau Internet. Alors j'ai essayé de au départ de risquer un sous-titre un peu lourd, puisque vous voyez le pouvoir et opérateurs. Les mailles peu brillantes du web. Alors je ne sais pas si finalement ça vous causait un petit peu ce titre-là, les mailles peu brillantes du web. Il y en a qui ont pensé peut-être à du dentifrice à un moment donné, pour les mailles qui est brillant. Désolé. Mais en vérité, web en anglais c'est la toile d'araignée, c'est le filet. Donc l'idée des mailles, eh ben, vous voyez que c'est plutôt ici, non pas plutôt ce qui est brillant, qui recouvre les dents et les protège, mais c'est plutôt ce qui permet d'attraper des petits poissons, ou plutôt ceux qui passent pas entre les mailles du filet, justement. Et donc voilà un petit peu l'origine de ce titre, avec ces petits mystères qui continuent de... Mais avec cette idée donc d'ouvrir un petit peu le débat autour d'Internet, du fonctionnement du réseau. De qui est-ce qu'il fait fonctionner, d'où il vient aussi un petit peu, et de voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de ce réseau, qui est-ce qui s'en occupe, qui est-ce qui le contrôle, bien ou pas bien. Alors un petit peu le sommaire que je vous propose un petit peu, il va être dans un premier temps de s'intéresser à des problématiques qui sont des problématiques liées, je dirais, aux relations entre le réseau, le numérique et les problématiques militaires, les problématiques de défense et d'espionnage. Et on verra pourquoi, notamment parce que la naissance du numérique a quand même quelque chose à voir avec les problématiques militaires. Dans un deuxième temps, on essaiera de faire peut-être un petit détour par ce que j'appelle les guéguerres économiques. Vous voyez qu'il y a quand même un certain sarcasme à l'intérieur du titre en disant « guéguerre numérique » pour voir qu'il y a des choses qui relèvent effectivement de véritables combats, mais peut-être que de temps en temps, c'est peut-être plus du catch que de la boxe. Paranoïa 2.0, c'est de se poser la question de savoir jusqu'où nous, on a intérêt à se méfier, s'inquiéter des réseaux numériques. Et puis le petit traité d'autodéfense numérique, où ce sera quelques conseils vite fait, mais plutôt, j'espère, une ouverture au débat sur effectivement, est-ce que, par rapport à ce qu'on aura évoqué avant, est-ce que ça vaut le coup de s'inquiéter de ce qui peut se passer dans les univers numériques? Et si on s'inquiète, eh bien, comment se rassurer et se protéger si nécessaire? Donc voilà un petit peu le petit parcours que je vous propose pour ce soir. En commençant avec cette idée que le numérique, il a quelque chose à voir avec le militaire. Alors pourquoi il a quelque chose à voir avec le militaire? Parce que dans l'histoire même de l'informatique, le militaire est présent. Avant même l'apparition des ordinateurs, mais avec les problématiques qui donneront naissance aux ordinateurs. Les militaires ont eu besoin de l'ordinateur parce qu'ils avaient deux problématiques récurrentes. Une première problématique, c'est une problématique, alors je vais les prendre dans l'ordre différent de celui qui est annoncé sur la diapo, mais une des premières problématiques, c'est celle du cryptage. Celle du cryptage, c'est-à-dire coder les messages, faire en sorte qu'on puisse faire circuler de l'information sans que les autres soient au courant de l'information qu'on fait circuler. Donc une problématique qui est liée à nos choix stratégiques, à aux informations qu'on collecte sur nos adversaires, ou aux informations qu'on doit faire circuler entre nous pour conserver un avantage sur nos adversaires. Alors ces problématiques de cryptage, elles apparaissent dès l'Antiquité, se développent aussi beaucoup au XVIIe, XVIIIe siècle, et pendant les grandes guerres, en particulier les grandes guerres mondiales, et pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands, par exemple, avaient développé une petite machine que vous apercevez dans le bas, qui ressemble un peu à une machine à écrire, là, qui s'appelle une Enigma. L'Enigma, c'était une machine qui servait à chiffrer, à coder les messages que les états-majors allemands échangeaient, notamment avec leurs sous-marins. Et les sous-marins allemands et bien, posaient de vrais problèmes à l'Angleterre, qui était le seul endroit qui n'était pas encore occupé par les Allemands. Et grâce à leurs sous-marins, et bien, ils pouvaient de cette façon-là essayer de créer un blocus contre la Grande-Bretagne, qui devenait la tête de pont des Américains. Les Anglais ont donc du coup travaillé à développer une machine qui serait capable de décrypter les messages de l'Enigma. Cette machine, qui a existé donc pendant la Seconde Guerre mondiale, s'appelle le Colossus. C'est probablement en vérité le Colossus, le premier ordinateur, un des deux ou trois premiers ordinateurs tels qu'on peut définir ce qu'est un ordinateur, c'est-à-dire une machine qui est capable de changer de programme, de changer de fonctionnement, qui n'est pas une machine qui est prévue pour un type de fonctionnement, mais qui va pouvoir s'adapter en fonction de programmes qui vont lui donner une autre forme d'intelligence pour, du coup, traiter d'autres problèmes, des problèmes différents. Alors, je dis que c'est une des deux ou trois premières machines, ordinateurs, pardon, je dirais même que c'est probablement le deuxième. Il est en concurrence en vérité sévère avec un ordinateur artisanal qui est développé à cette époque-là chez les Allemands, enfin, pas chez les Allemands, mais par un Allemand qui s'appelle Konrad Zuse, qui va donner naissance donc à plusieurs machines qui vont là aussi ressembler à des ordinateurs, mais c'est un projet, je dis artisanal, parce que Konrad Zuse développe ça dans son coin et l'état-major allemand ne considère pas ses recherches comme étant des recherches pertinente et fondamentale par rapport à leurs besoins stratégiques. Donc c'est vraiment un projet qui est personnel, on va dire, à Konrad Zuse, alors que le projet Colossus, c'est un projet qui est porté par l'état-major britannique, en tout cas par ceux qui sont au courant, parce que tout le monde n'est pas au courant, qui est porté aussi par un ingénieur qui va être important dans l'histoire de l'informatique, qui s'appelle Alan Turing, qui est donc un inventeur de génie, qui est la personne qui va inventer les langages de programmation, qui va inventer le concept d'intelligence artificielle. Et donc cette machine va permettre de décrypter les messages secrets qui sont générés par ces petites machines Enigma. Et à partir de ce moment-là, ben effectivement, les alliés vont pouvoir intercepter les messages qui vont en direction des sous-marins et savoir où se trouvent les flottes de sous-marins allemands. Et ça va permettre aussi d'envoyer des destroyers pour les détruire. Donc on voit là qu'il y a un avantage particulier et qui est important. L'autre élément important qui nécessite qu'on s'intéresse aux ordinateurs et en particulier à leur puissance de calcul, parce que là on était dans une problématique plus de communication, mais où on a des besoins en termes de calcul avec les ordinateurs, eh bien c'est qu'un ordinateur, à cette époque, pardon, on bombarde, on canonne. Et pour chaque missile, pour chaque canon, on a besoin d'avoir des tables de tir. Les tables de tir, c'est un ensemble de paramétrages qu'on va proposer aux gens, aux artilleurs, pour en fonction du vent, en fonction de la situation de la cible, eh bien, d'ajuster les différents réglages du canon pour arriver à atteindre la cible. Mais le problème, c'est qu'une table de calcul, compte tenu de l'ensemble des paramètres qui sont nécessaires pour, en termes de balistique pour arriver à atteindre son objectif, eh bien, vont être des tables de calcul qui nécessitent énormément de calculs. Alors, une partie de l'entre-deux-guerres et de la guerre va occuper de cette façon-là pas mal de jeunes filles, notamment aux États-Unis, à utiliser des machines pour faire des additions et à faire tous les calculs semi à la main. Quand je dis semi à la main, c'est qu'effectivement, elles ont des espèces de petites machines qui ressemblent à des moulins à calcul qui vont leur permettre de faire ces calculs pour les tables de tir. Et du coup, comme on a des milliers d'opérations à faire, eh bien, on voit très bien l'intérêt qu'il peut y avoir à automatiser les calculs, à avoir des machines qui pourraient faire ça plus rapidement, plus efficacement et avec moins de risques d'erreur que si c'était des humains qui le faisaient. Donc, on a une autre piste de développement. Et puis, une autre piste qui va apparaître, et c'est celle qu'on voit apparaître sur cette diapositive ici et qui est sur le fond, c'est une problématique ici de surveillance. C'est vous voyez ici un des postes souterrains du réseau SAGE. Le réseau SAGE qui était un réseau qui avait pour vocation à surveiller le ciel américain et à avoir du coup en temps réel les positions de tout ce qui circulait dans le ciel américain On est en pleine guerre froide, on est dans les années 60. Donc de pouvoir savoir qui circule, qui vole au-dessus du territoire américain. Et donc les ordinateurs vont permettre en temps réel de savoir ce qui se passe, mais aussi pour l'anecdote, c'est aussi comme ça qu'on va inventer les jeux vidéo, puisque ces appareils qui servent à détecter des intrus dans le ciel vont permettre aussi de créer des simulateurs pour s'entraîner. Et un appareil où on simule l'arrivée d'avions et sur lequel on va envoyer d'autres avions pour éliminer les avions qui sont en face, eh bien vous avez juste à trouver ça drôle, ça s'appelle un jeu vidéo. Donc on voit un petit peu l'origine des premiers jeux vidéo, le premier jeu vidéo d'ailleurs qui naîtra dans les laboratoires du MIT à Boston, il s'appelle La Guerre des Étoiles. Et donc ici, d'une certaine manière, plutôt que de lutter contre le grand ogre rouge qui pourrait envahir les États-Unis à cette époque-là, eh bien on se bat contre les petits hommes verts. Les inversés, la psychanalyse de hasard, mais ça marche bien. Donc voilà un petit peu des problématiques. Alors, du coup, on a quand même dans l'idée, et ça je pense que c'est une chose que beaucoup d'entre vous ont peut-être entendu dire, c'est que le réseau Internet serait un réseau militaire, d'origine militaire. Donc, c'est peut-être une légende urbaine, je vais même dire que c'est une légende urbaine. Le réseau Internet, effectivement, descend d'un réseau qui s'appelle le réseau ARPANET. Et là, vous voyez des cartes du développement du réseau ARPANET au cours d'une décennie, de la première décennie d'existence du réseau ARPANET. Comme vous le constaterez en repérant les initiales, alors le fond de carte est en allemand parce que je l'ai récupéré sur un site germanique. Mais vous constaterez quand même que les premiers éléments de ce réseau et l'ensemble de ce qui va constituer ce réseau, ce sont avant tout de grandes universités américaines. Et ce ne sont que de grandes universités américaines. Alors, où a pris naissance cette légende? C'est parce que, effectivement, le réseau Internet est héritier d'un proto-Internet qui était le réseau ARPANET. Le réseau ARPANET, c'est un réseau qui a été développé dans le cadre de projets de recherche qui étaient financés, portés par la DARPA. La DARPA, c'est une agence de recherche financée par le secrétariat à la défense américain, donc l'équivalent du ministère de la défense aux États-Unis. Et cette agence finançait des chercheurs pour produire des trouvailles qui pourraient intéresser les militaires. Et du coup, comme le réseau ARPANET a été développé dans le cadre des travaux de l'ARPA, on est persuadé que c'est un réseau qui a quelque chose à voir directement avec les militaires. En réalité, le principe de fonctionnement de la recherche aux États-Unis à cette époque-là, c'était de constituer donc des agences qui allaient subventionner des chercheurs universitaires pour travailler sur un certain nombre de problématiques. Ici, on avait un groupe qui devait travailler autour des problématiques liées à l'informatique, mais qui étaient liées à différentes logiques d'informatique, pas à des questions de réseau. Simplement, les chercheurs qui travaillaient sur ces problématiques-là, les chercheurs qui travaillaient en informatique dans ce cadre-là, emmenés notamment par un certain Lee Klider, eh bien, ce groupe de chercheurs a mis au point un petit réseau pour partager entre eux des travaux, pour faire fonctionner ces travaux entre eux. Donc, du coup, au départ, ce réseau n'est pas une commande de l'armée, c'est un outil de travail que se bricolent les chercheurs de ces différentes universités. À cela s'ajoute la structure particulière de ce réseau. Ce réseau est structuré, comme vous le voyez ici, on voit bien que ce n'est pas fait par des Français, puisque ça ne passe pas par Paris. Normalement, tout passe par Paris. Et bien là, ce n'est pas le cas. On a un réseau qui est un réseau décentralisé. On a un réseau qui est décentralisé, et là aussi, la légende qui est tenace sur la question du réseau Internet, eh bien, elle dit que ce réseau est décentralisé parce qu'on est en pleine période de guerre froide et que si on subissait une attaque atomique, eh bien, ça permettrait de ne pas avoir un centre névralgique trop important qui, s'il était détruit, eh bien, désorganiserait l'ensemble du pays et l'organisation de la communication entre les forces armées. En réalité, ce qu'il faut bien imaginer, c'est qu'à l'époque, les ordinateurs relèvent plus du prototype que de la machine développée de façon industrielle, que si aujourd'hui vous plaignez peut-être encore assez régulièrement des dysfonctionnements de vos ordinateurs, on a vu celui-ci avoir quelques difficultés à s'échauffer aujourd'hui, ça fait partie des choses. Il faut penser qu'à l'époque, un ordinateur, y compris et surtout dans les centres de recherche où c'était des prototypes, des machines sur lesquelles on faisait des tests, des essais, etc., eh bien, il tombait en panne très régulièrement. Et j'irais presque jusqu'à dire que si à la fin de la semaine, l'ordinateur n'avait pas buggé sévèrement, eh ben, on sortait le champagne. Donc, on était avec des machines qui étaient très fragiles. Alors, imaginez que vous ayez un réseau informatique centralisé avec des machines qui tombent en panne plusieurs fois par jour ou par semaine. Si vous avez un ordinateur central, forcément, cette machine-là tombera en panne. Et si cette machine-là tombe en panne, c'est l'ensemble du réseau qui est paralysé. Donc, la nécessité qu'avaient les chercheurs de faire un réseau était de toute façon de le penser de façon décentralisée. Parce que s'il avait été centralisé, il n'aurait jamais pu fonctionner. Il aurait trop souvent été en panne. Donc, la nécessité de décentraliser, elle était plus liée à la fragilité des machines qu'au nombre d'attaques récurrentes des forces du pacte de Varsovie sur les États-Unis à cette même époque. Puisque si mes souvenirs sont bons, je ne crois pas qu'il n'y ait eu d'attaque nucléaire sur les États-Unis, même si on...
Il y a quand même Cuba en face,
hein. Il y a quand même la question de Cuba. Alors il y a effectivement Cuba qui se met en place à cette époque-là, mais c'est une menace. Ça n'est pas une réalité, à la différence des pannes des ordinateurs, qui eux sont une réalité quotidienne.
Vous voyez, c'était la grande hantise de la bombe nucléaire. Parce qu'on est passé plusieurs fois à deux doigts.
Oui.
Donc il ne fallait pas être détruit complètement, c'est pour ça que le réseau ORPANET était descendu.
Il y avait des gens qui n'étaient pas dans le groupe de l'IPTO, plus particulièrement, qui était le groupe qui développait le réseau ARPANET, qui ont travaillé sur cette hypothèse-là, notamment un ingénieur dans la société RAND qui travaillait avec le ministère de la Défense aussi de son côté. Mais ça n'était pas le même projet. Et les gens qui ont travaillé dessus, tous les éléments historiques qu'on a, et ça je renverrai notamment aux travaux de deux personnes qu'on a en France qui ont énormément travaillé sur le sujet, c'est Alexandre Serre qui est à l'URFIST à Rennes, et puis Alain Milk qui travaille au LIRIS à Lyon, qui ont collecté de la documentation où on a toutes les conversations, où on a un ensemble de documents, parce qu'on connaît bien les personnes, hein, de Lee Klyder à Kleinrock qui ont travaillé sur le développement d'ARPANET, et ces gens-là ne connaissaient pas les travaux de la personne qui, chez RAND, a émis une hypothèse qui n'était connue que d'un tout petit groupe d'experts sur la nécessité d'avoir un réseau décentralisé. La réalité de ce réseau-là et tous les éléments qu'on a aujourd'hui d'archives de la construction du réseau ARPANET, c'est un réseau de travail entre personnes et c'est un réseau qui a cette structure-là d'abord pour être opérationnel avant même d'être en prise avec des réalités stratégiques qui n'atteignaient pas ce groupe de chercheurs qui n'étaient pas impliqués dedans. Mais comme je dis, il y a un certain nombre de travaux qui vont dans ce sens-là. Mais c'est vrai que médiatiquement parlant aussi, c'est vachement moins spectaculaire de dire que le réseau Internet est un réseau décentralisé parce que des scientifiques plutôt proches d'idées pacifistes à ce moment-là veulent un petit réseau sympathique qui fonctionne pour bricoler entre eux, plutôt que de dire que c'est une grande intelligence qui pense à faire face à une menace nucléaire avec tout ce que ça peut générer d'infographie, je veux dire. C'est-à-dire que mettre une attaque nucléaire, dire qu'il y a une menace nucléaire, ça veut dire qu'on peut faire des petits diaporamas, on peut faire des petits films où on met un champignon nucléaire et c'est esthétiquement vachement plus joli qu'un ordinateur qui sert juste à faire des calculs pour un groupe de scientifiques.
Je ne veux pas t'embêter, mais je ne suis pas du tout d'accord. Parce que moi, je le tiens de chercheur du CERN.
Ouais. Et les calculs, c'est essentiellement la physique nucléaire. Et c'est le projet Manhattan qui a lancé la levée de fonds pour pouvoir faire l'armement atomique avant les nazis, pour pouvoir gagner la guerre. Pas de chance, la bombe a été prête, l'armistice avait été...
On est d'accord sur l'ouverture de fonds, et ça je l'ai... On est d'accord sur l'ouverture de fonds pour les calculs, mais ce que je dis, c'est que le réseau n'est pas une commande militaire.
Non, c'est pas une commande, mais tout à l'heure, tu as fait une incidente en disant que
les universités... En vérité...
Mais je suis désolé, les universités sont financées par les militaires, la recherche appliquée...
Oui, et puis les militaires sont financés par les citoyens, donc... et par les pacifistes, de cette façon-là.
C'est pas dans la même... je peux te dire que sans la DRMO, à Lyon, on n'aurait pas fait beaucoup de recherches. Tout simplement parce que... Les crédits de recherche vont aux militaires qui ensuite financent les universités.
Je reviens et je close sur cette parenthèse. C'est que, oui, des fonds militaires ont été utilisés, mais ces fonds militaires et le réseau n'est pas une commande militaire. Ça n'a pas été une structuration basée sur des stratégies militaires, mais sur des stratégies de travail collaboratif entre chercheurs. La vérité, c'est qu'on pourrait presque taxer ce groupe de chercheurs-là d'avoir détourné des fonds à une utilisation qui n'était pas celle à laquelle ils étaient spécifiquement affectés. Ils étaient affectés à ce qu'ils puissent, malgré tout, construire leurs outils de recherche. Mais, soyons très clairs, ça n'est pas une commande militaire avec des objectifs stratégiques. C'est un financement qui est utilisé. Mais bon. Alors, depuis l'affaire Snowden... Il est évident qu'il y a une proximité avec ce que j'appelle les nouvelles oreilles, le fait qu'on utilise le réseau Internet pour s'informer, et puis l'ensemble des réseaux de communication et de télécommunication, sur s'informer sur les activités des personnes et des individus. Alors, je rappelle brièvement l'affaire Snowden. Snowden, c'est un consultant qui a travaillé pour une agence de renseignement américain qui s'appelle la NSA. Et qui est parti avec un certain nombre d'informations sur la façon dont fonctionnait la NSA et qui depuis maintenant à peu près 3-4 ans distille petit à petit un certain nombre d'informations. Il n'a pas fini de tout livrer ce qu'il avait à dire, et ce qui est intéressant, c'est qu'il a amené des éléments concrets qui ont permis de valider un certain nombre d'informations qu'on avait déjà en parallèle au travers de réseaux comme Wikileaks, mais aussi tout un tas d'autres personnes qui avaient eu vent d'informations d'une manière ou d'une autre, et puis qui étaient somme toute simplement logiques avec ce que sont les logiques sécuritaires, mais qui a révélé effectivement que la NSA, donc cette agence de renseignement américain, faisait une écoute. Elle avait des moyens de faire une écoute quasi systématique de n'importe qui au travers des réseaux de télécommunications. Et ça fait suite à un programme dont on parlait déjà au début des années 2000, qui était le programme Echelon. Donc un programme développé à l'échelle mondiale visant à écouter ou être en mesure d'écouter et d'intercepter à peu près toutes les télécommunications. Qu'elle soit hertzienne, qu'elle soit filaire, qu'elle soit téléphonique, qu'elle soit audiovisuelle. Et donc, un vaste programme a été mis en place dessus. Donc, on voit qu'on est quand même, on retrouve un peu cette logique qu'on avait avec les trucs du Colossus. Mais ce qui est plus particulier à cette affaire-là, c'est qu'ici, on n'est plus dans de l'écoute qui se fait en période de guerre, avec un ennemi identifié et dans une situation conflictuelle, mais d'avoir un ensemble d'outils qui, de façon entre guillemets préventive, collectent des informations sur des gens ou espionnent les communications au travers, par exemple, d'identifier un certain nombre de mots-clés qui vont déclencher des enregistrements parce qu'il y a la présence d'un certain nombre d'indices qui ont été classés comme étant des indices qui permettaient de dire « faut suivre cette conversation » ou « faut suivre les personnes de cette conversation » parce qu'il y a peut-être matière à déjouer les plans macabres de tel ou tel groupuscule ou de tel ou tel groupe qui voudrait nuire à nos propres intérêts. Alors, on pourra revenir et discuter, si vous le souhaitez, sur notamment le fait que certaines personnes considèrent qu'il y a toute une discussion autour des problématiques terroristes et des problématiques de copie des fichiers qui ont visé, notamment à partir de 2001, du 11 septembre 2001, à fournir des éléments de rhétorique aux différents gouvernements, et en particulier le gouvernement américain, pour qu'ils puissent justifier de sortir d'un certain nombre de lois constitutionnelles qui jusque-là préservaient et sanctifiaient un certain nombre de conversations privées et de liberté d'expression. Et qu'au nom de la sécurité nationale, ou au nom de la protection du droit d'auteur dans un certain nombre de cas de figure, eh bien, on a commencé à déléguer la surveillance, à autoriser dans un premier temps la surveillance, et à déléguer cette surveillance à des organismes qui ne sont pas forcément des organismes d'État. Donc d'une part, il y a des organismes d'État qui l'ont fait, la NSA en est un, mais ensuite, on le voit et on le verra plus tard, cette surveillance des communications a été déléguée à un certain nombre d'entreprises. Et on pourra le retrouver notamment dans le cas d'entreprises françaises qui ont été impliquées dans un certain nombre de pratiques d'écoute au service de certains gouvernements. Récemment, il y a quelques jours, c'est les Canadiens qui ont découvert que les Français essayaient de les écouter au travers d'un certain nombre d'outils numériques. Mais ce n'est pas sûr que si les Français écoutent les Canadiens, ils soient capables de comprendre ce qu'ils se disent. Non, c'est une mauvaise blague. Je la retire. Alors, le numérique, c'est aussi aujourd'hui des technologies qui vont permettre, au travers des réseaux, grâce à l'informatique, eh bien, d'être au-delà de simplement écouter, espionner, savoir. Mais ce sont aussi désormais des outils qui permettent de frapper matériellement les ennemis ou en tout cas les personnes dont les groupes qu'on considère comme nuisant à nos intérêts. Alors, parmi ces choses-là, il y a différentes choses hein, sur la diapo. Vous avez un petit schéma qui, vite fait, montre différents niveaux d'attaque. Et alors, le premier truc dont on pourrait parler et qui existe pour de vrai, ce sont ce qu'on appelle les cyberattaques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il existe des terrains de guerre numérique. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'on assistait à des frappes qui étaient des frappes matérielles, mais c'est pas parce que ça se passe dans l'univers du numérique, ces frappes-là, qu'elles n'ont pas effectivement d'incidence matérielle. Et je peux citer deux exemples pour illustrer un petit peu ces logiques de frappe militaire. C'est lorsque l'Estonie a été attaquée par des groupuscules russes, proche du gouvernement, mais a priori se disant comme indépendants, agissant pour leur propre compte, et qu'ils ont enclenché un ensemble d'attaques sur les institutions estoniennes, les banques estoniennes, les services de transport estoniens, donc de cyberattaques pendant plusieurs jours. Et ce qu'il faut imaginer, c'est que à cette époque-là, eh bien, les Estoniens avaient dématérialisé une grande partie de leurs pratiques administratives et organisationnelles. Donc ça veut dire que lorsque les réseaux des sociétés de transport sont devenus inaccessibles pendant plusieurs heures ou plusieurs jours, ou qu'il n'était plus possible de payer son téléphone, de payer ses impôts, de déclarer une naissance, etc., etc. Donc ça veut dire que c'est un pays entier qui est paralysé parce que vous ne pouvez plus prendre le train. Parce que ça veut dire que si le réseau commence à être déstabilisé et complètement déstabilisé, ça veut dire que les trains cessent de fonctionner, ça veut dire que les avions ne peuvent plus se poser et décoller parce qu'il n'y a plus d'ordinateurs qui fonctionnent dans les tours de contrôle. Un deuxième événement du même type, c'est il y a 2-3 ans, lorsque les Iraniens ont subi dans leur centrale nucléaire un certain nombre de dysfonctionnements liés à la présence de virus qui avaient été infiltrés à l'intérieur des centrales nucléaires et qui ont qui ont fait dysfonctionner l'appareil de production nucléaire iranien. Plus de façon plus discrète aussi, c'était il y a aussi 3-4 ans, ce sont les drones américains qui ont eux-mêmes été infectés par des virus. Alors comment les drones des Américains ou comment les centrales nucléaires iraniennes vont être atteintes par des virus? Eh bien parce que celui qui n'a jamais utilisé une clé USB au travail pour regarder des photos personnelles, eh bien me jette sa clé USB dessus. Je crois que j'en aurais pas forcément beaucoup à éviter, mais c'est que tout simplement, vous avez des gens qui vont travailler, des militaires qui rentrent chez eux un soir, qui récupèrent des photos de vacances, des jeux vidéo qui vont échanger avec des copains un jour ou un autre, et leur clé USB va être infectée. Et leur clé USB infectée, ils vont la brancher dans un des appareils au boulot, et à l'intérieur d'un réseau qui a priori est ultra protégé de l'extérieur, eh bien c'est quelqu'un qui va mettre le virus ou le composant qui va affaiblir le réseau directement ou l'appareil directement à l'intérieur de ce réseau-là. J'ai évoqué les drones. Les drones, c'est ces appareils qui permettent de survoler le territoire des territoires, de filmer des choses, mais aujourd'hui pas simplement de filmer des choses, mais effectivement directement de faire des attaques. Et actuellement, eh bien, vous avez régulièrement des attaques en Afghanistan ou en Iran par des drones américains qui vont tuer des gens. Et les gens qui pilotent ces drones, eh bien, travaillent depuis un bureau aux États-Unis. Donc ils partent tuer du monde après avoir posé les gamins à l'école le matin. Ils vont se garer sur le parking, ils rentrent dans leur petit bureau, ils prennent leur manette de jeux vidéo et ils vont démolir des gens qui sont dans un bunker ou dans un petit village quelque part en Irak ou en Afghanistan. Les réseaux, alors on parle aussi des réseaux informatiques, mais il ne faut pas oublier les réseaux de téléphonie mobile qui ont permis a priori de localiser le méchant de toute la planète qui n'a pas si longtemps que ça. Grâce à son téléphone satellitaire, on a pu attraper... comment il s'appelle déjà le vilain ? Pardon ? Voilà. Je ne le dis pas parce que si je le dis, comme c'est enregistré et tout, après il y a la NSA qui va choper et considérer que je parle de ce monsieur-là et que si je parle de ce monsieur-là, peut-être que j'en pense du bien. Et si j'en pense du bien, il faut peut-être me surveiller. En vérité, je pense que je suis déjà surveillé. Mais je ne suis pas le seul, vous aussi, hein, ils surveillent tout et n'importe quoi. Donc, téléphonie mobile qui sert aussi à déclencher aujourd'hui, c'est alors on utilise très fréquemment les téléphones mobiles et donc du coup les réseaux de téléphonie pour faire des attentats parce que finalement un téléphone mobile qui se met à sonner, au lieu qu'il sonne, il déclenche une bombe qui est attachée sous une voiture, et ben c'est vachement plus pratique quand vous savez pas à quelle heure la personne part. Ben vous avez juste à connaître le numéro de téléphone de la bombe que vous avez placée dessus. Ou si vous piégez le téléphone, ça c'est un petit peu plus rock'n'roll, mais les services secrets israéliens ont réussi ce truc-là. Piéger un téléphone portable d'un ennemi, et puis comme ça, au moment où il décroche, eh ben, vous lui déclenchez un petit feu d'artifice dans les oreilles, la tête part avec, et donc c'est un moyen de travail à distance. Là aussi, hein, le travail à distance, c'est pas juste pour les gens qui travaillent depuis chez eux, mais ça fonctionne aussi bien en matière de défense. Alors, je vais essayer d'évoquer les guéguerres économiques et en disant que c'est des vrais coups et des grandes, voire grosses manœuvres. Alors, des vrais coups, j'aurais pu l'écrire autrement. Hein. Ça aurait pu effectivement être des coûts financiers. Il y a des vrais engagements et des vrais investissements financiers qui sont faits. Ou qui, même si des fois ils le sont faits virtuellement, ils ont un impact considérable sur l'économie réelle, comme on dit. Et quand je dis grande, et puis entre parenthèses, grosse manœuvre, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de fois où il me semble que tout ce qu'on voit s'agiter autour du numérique, des réseaux, des télécommunications, etc., etc., eh bien, ce sont... peut-être parfois des vraies guerres que se livrent un certain nombre de groupes, mais en même temps, on ne peut s'empêcher de penser quand même aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de connivences et de convergences d'intérêts entre différents industriels du secteur qui font que finalement, eh bien, ils arrivent à travailler un petit peu main dans la main de temps en temps, et qu'en vérité, les querelles sont plus à la marge que des querelles véritablement frontales. Alors, pour essayer de mettre une petite dose d'humour là-dedans, voici une querelle. Vous avez Monsieur Mac, cool, décontracté, parce que Mac est sympathique. Et puis vous avez le monsieur de Windows qui vient, qui est gros, qui est gras, parce que ça met longtemps à fonctionner, parce que ça télécharge mal, parce que c'est gourmand en ressources, etc. etc. C'est une publicité d'Apple. Hein. Donc, voilà, et mais ne vous aura pas échappé que depuis maintenant 3-4 ans, il y a une autre entreprise qui entre sur le secteur de l'informatique et qui semble devenir une entreprise majeure sur le secteur, qui semble être une entreprise qui a l'intention de dominer les choses. Alors, on va reprendre la même pub, mais on la modifie un petit peu. I am Google Android. Donc vous voyez que le petit robot d'Android est venu pour faire une guerre tout à fait pacifique à Apple, puisque donc Apple est un des gros opérateurs. Personnellement, si vous me demandez mon avis et qu'on veut troller une partie de la soirée ou de la nuit, je vous dirais que Apple est le mal absolu sur la planète informatique. Il n'y a pas pire. Après, on pourra en discuter, mais il n'y a pas pire. Je pense même presque du bien de Facebook quand je prononce le mot Apple. Mais je reviendrai un petit peu sur les logiques qui sont derrière ça. Alors, le petit schéma que vous voyez sur rue 89, c'est l'idée qu'on a beaucoup d'alliances. Des alliances qui sont temporaires, des alliances qui vont être mouvantes. Et où ici, les alliances que vous voyez, notamment les flèches, les couleurs des flèches, indiquent au travers de ces couleurs de flèches quand est-ce que... Alors ici, on est sur quelque chose qui est assez technique, a priori technique, qui est l'accès à la technologie d'identification d'un réseau social ou d'une technologie qui héberge vos comptes. Par un autre service. Et donc vous allez voir que Facebook permet qu'on utilise une partie des données que vous enregistrez sur Facebook pour vous identifier ailleurs. Les gens qui ont un compte aujourd'hui chez Facebook ont déjà remarqué, ou même si vous n'avez pas un compte chez Facebook, vous avez probablement remarqué, pour ceux qui se baladent un petit peu sur le web de temps en temps, qu'on vous propose maintenant sur un certain nombre de sites de vous identifier sur le site, non pas en vous créant un compte pour être reconnu sur ce site-là, mais en utilisant votre compte chez Google, votre compte chez Twitter, votre compte chez Facebook, etc., éventuellement à d'autres endroits qui joueraient le rôle d'un tiers de confiance pour vous identifier. Alors, on voit que on a des fonctionnements qui fonctionnent parfois à double sens et parfois à sens unique. Ici, on n'est pas simplement au niveau de cette diapo dans le partage d'identification, c'est qu'à un moment donné, on est éventuellement dans le partage de d'autres informations. Et on a eu par exemple une guéguerre entre Google et Facebook parce que Google reprochait à Facebook d'utiliser une de ses API pour récupérer le carnet d'adresses des gens qui sont chez Google. Alors dans ce que je viens de dire, je vais revenir quand même peut-être sur un certain nombre de mots. Notamment le fait d'utiliser l'API. Donc, ce qu'on appelle une API, c'est en fait une technologie informatique, donc des trucs sur lesquels on va pouvoir se brancher, en quelque sorte, sur lesquels un site web va pouvoir interroger un morceau d'un autre site web pour obtenir des informations dont il va se servir. Les API, elles peuvent servir, par exemple, effectivement, à se connecter sur un autre site qui va aller chercher ou vérifier que vous êtes bien la bonne personne avec le bon mot de passe sur un autre site. Une API, elle peut servir pour d'autres sites. Je vais prendre un autre exemple, par exemple le site OpenStreetMap. Le site OpenStreetMap, c'est un site qui permet de faire de la cartographie collaborative. Vous connaissez Google Maps, donc qui permet comme ça d'avoir une cartographie et un plan d'une ville, eh bien OpenStreetMap, c'est la même chose que Google Maps, mais fonctionnant sur le principe de Wikipédia. C'est-à-dire que ce sont les gens qui renseignent la carte et qui mettent les informations dessus. Il existe sur OpenStreetMap, ça marche aussi, il y en a d'autres pour par exemple Google Maps, il existe des API qui vont permettre à un site web d'utiliser la carte d'OpenStreetMap ou une partie de la carte sur un autre site web. De sorte à ce que les gens ne réinventent pas la roue, de sorte à ce que les gens puissent profiter d'une partie du service et des informations produites par un autre site, de les récupérer ailleurs. Ces systèmes d'API, vous les retrouvez aussi, par exemple, sur le réseau Twitter, lorsque des gens vont pouvoir se brancher ou être à l'écoute d'un compte Twitter pour faire ressortir les informations qui passent sur la page Twitter d'un utilisateur pour les faire passer ailleurs, sur un autre site web, dans un autre logiciel, etc. Donc voilà un petit peu ce fonctionnement d'API. L'API, c'est un espèce, de branchement sur lequel un autre site peut se relier à un site qui contient des données pour aller récupérer des données en tout bien tout honneur sur ce site-là. Alors si je reviens à la problématique qui a opposé Google et Facebook, c'est que l'API de Google était très ouverte. Quand on dit très ouverte, ça veut dire qu'effectivement, il y avait la possibilité pour des programmeurs de récupérer une partie des informations des utilisateurs de Google, notamment par exemple une partie du carnet d'adresses. Mais les utilisateurs sont d'accord, puisqu'ils ont signé, ils ont validé, ils ont coché la petite case de la CLUF, c'est-à-dire le contrat qui lie l'utilisateur au prestataire de service. Quand vous créez un compte, vous avez une petite case à cocher généralement et qui dit que vous avez lu et accepté les conditions d'utilisation. Eh bien, à partir du moment où effectivement vous avez accepté ces conditions-là, vous autorisez Google à fournir un certain nombre de données à d'autres prestataires. Et ce que Google reprochait à Facebook, c'est qu'il n'y ait pas de réversibilité sur les pratiques. C'est-à-dire que que Facebook va se servir chez les autres, mais Facebook ne laisse rien sortir de Facebook. Ce qui fait que, en gros, quand quelqu'un produit de l'information à l'intérieur de Facebook, cette information-là n'est lisible que par les gens qui vont sur Facebook. Alors que si quelqu'un produit de l'information sur le réseau Google+, cette information-là, elle est moissonnable par d'autres services pour les mettre ailleurs. Donc, Google considérait qu'il y avait un déséquilibre entre les deux et donc envisageait de modifier son API pour que certains ne puissent plus y avoir accès. On a là l'idée d'une petite bataille. Vous avez eu une bataille de ce type-là qui a opposé Google à un prestataire de services français. Et j'y reviendrai, mais je l'évoque parce que c'est un bon exemple. Vous avez peut-être entendu parler des échanges tumultueux entre Google et puis Free.fr, parce que Free considérait que Google gagnait de l'argent grâce aux gens qui viennent faire des recherches sur le site, qui utilisent les services de Google, et que Google monétise la publicité sur ses sites et les informations qu'ils collectent sur les utilisateurs. Eh bien, comme ils monnaient ce truc-là et qu'ils gagnent de l'argent grâce aux utilisateurs, Free a considéré que eux, ils amenaient chez Google un certain nombre d'utilisateurs, puisque c'est eux qui font la liaison entre l'ordinateur qui est à la maison et la page web où il y a la publicité de Google. Et donc, à partir de ce moment-là, il était pertinent que Google soit travaille en bonne intelligence avec ses autres partenaires qui lui amènent du trafic, eh bien en redistribuant une partie des revenus ainsi obtenus. Et comme Google voulait pas le faire, eh bien Free a pris sur ses capacités technologiques de fermer la publicité de Google sur les ordinateurs de ses utilisateurs. Donc, ils ont mis une fonctionnalité, ils ont rajouté une fonctionnalité par défaut, dans un premier temps, qui faisait que, ben, effectivement, les gens qui étaient chez Free n'avaient plus de publicité quand ils allaient faire des recherches sur le moteur de Google. Ah, Google n'était pas content, il trouvait que c'était assez déloyal comme pratique, mais Free considérait que les pratiques de Google, de leur côté, étaient déloyales. Personnellement, j'ai des outils qui nettoient la publicité sur mon internet, mais je ne trouvais pas normal que mon prestataire, puisque c'était mon prestataire, ça l'est toujours, que mon prestataire le décide pour moi. C'est pas à lui de le faire, et je réévoquerai cette problématique-là lorsque j'évoquerai la question de la neutralité des réseaux. Donc on a comme ça des petites batailles. Alors ces batailles, elles se font aussi à d'autres endroits. Elles se font par exemple ici, on voit un ensemble de guéguerres ou d'accords qui se font ici autour de la question des brevets. Donc les brevets, c'est ce qui consiste à dire qu'on déclare qu'on a inventé, qu'on va inventer, qu'on a tel procédé ou telle technologie qu'on va développer. Et on voit qu'il y a régulièrement, entre les grands opérateurs, eh bien, une bataille sur la question des brevets, et qu'ils se font des quantités de procès. Qu'aujourd'hui, les brevets, en fait, sont devenus des lieux de gain d'argent. Vous avez des sociétés qui ne fabriquent rien, qui ne vendent rien, d'autre que d'acheter des brevets, et ensuite de faire des procès pour gagner de l'argent avec ces brevets-là. Il y a eu un procès de cette façon relativement célèbre autour d'un format de fichier d'image qui est le format, alors peut-être certains en ont entendu parler, le format GIF. Alors certains d'entre vous ont envie de dire, moi je connaissais le GIF, mais pas le GIF. Mais je ne parle pas super bien anglais, mais à vue de nez, les gens disent pas un GIC, ils disent un GIC. Et ben pour le GIF, c'est la même chose. C'est deux heures, ouais, mais selon les... voilà. Donc, sur les fichiers GIF, il y avait un brevet au départ qui avait été développé notamment par CompuServe. Donc c'est un format d'image. C'est la façon dont sont structurées les données dans un petit fichier qui est stocké sur l'ordinateur et qui apparaîtra comme une image dans un lecteur d'image, que ce soit un navigateur web ou que ce soit... Un outil pour visualiser des images. Donc, un format d'image, c'est la façon dont sont alignés, je fais très vite, sont alignés les 0 et les 1 à l'intérieur de ce fichier-là. Au lieu que ce soit du texte, c'est des 0 et des 1 qui vont représenter les différents points, les différentes couleurs qu'il va y avoir à l'intérieur de l'image. Eh bien, il y a une société qui avait racheté le brevet qui avait été fait par CompuServe pour ensuite envisager de réclamer des royalties à tous ceux qui voudraient utiliser le format GIF. Comme c'était un format qui était très utilisé sur Internet, ça voulait dire que tous ceux qui fabriquaient des logiciels de dessin auraient dû payer des royalties à cette société-là. Que tous les sites web qui auraient affiché une image GIF auraient dû éventuellement payer des royalties. Alors, peut-être infiniment, peut-être pas grand-chose, mais voilà ce que recherchait ou ce que recherche ce type de société-là. Vous avez des sociétés qui fonctionnent comme ça. Ces accords se terminent aussi souvent par des accords, on va dire, à l'amiable. Je dis « on va dire à l'amiable » parce que même à l'amiable, des fois, il y a quand même plusieurs millions de dollars qui sont échangés. Et vous voyez par exemple qu'entre Nokia et Apple, eh bien, vous avez à un moment donné des batailles sur les brevets qui finalement vont donner lieu à un accord à l'amiable. Que des batailles qu'il y aurait pu y avoir à une époque entre Nokia et Microsoft vont s'interrompre parce que Microsoft va racheter Nokia au moment où Nokia est en difficulté. En rachetant Nokia qui est en difficulté, eh bien en vérité ce que fait en partie Microsoft, ils vont en partie racheter tout ou partie des brevets de Nokia. Et à partir du moment où ces brevets-là leur appartiennent, eh bien ils ne vont plus être en conflit avec eux-mêmes. Donc voilà, vous avez des sociétés qui se cassent la figure, qui sont en train de disparaître, qui ne marchent plus économiquement. C'est le cas par exemple d'une société, vous voyez, qui est un petit peu, qui est en rouge, un peu en plein milieu, Kodak. Eh bien, Kodak est une société qui est en faillite, mais qui possède des milliers et des milliers de brevets. Et donc, vous avez eu une bataille pour racheter les brevets de Kodak. Ça ne permettait pas à l'entreprise de survivre, mais ça permet à des gens comme ça d'avoir des éléments qui leur permettront d'engager des batailles juridiques ou de développer éventuellement ces technologies-là quand ils auront le souhait de les développer. Alors, sur la diapo suivante, on est aussi ici sur la guerre des brevets au niveau des mobiles. Et vous voyez là aussi que vous avez des échanges de combat, par exemple, entre Apple et Samsung. Apple considère que Samsung a copié l'iPhone, et puis Samsung considère que qu'Apple leur a pillé d'autres trucs. Et puis en vérité, Samsung fabrique une partie des composants qui sont dans les appareils d'Apple. Donc vous voyez qu'on a des jeux qui sont très particuliers. Vous voyez qu'on a des relations qui vont exister avec certains opérateurs. On parlait tout à l'heure par exemple d'Android. Eh bien vous avez des sociétés comme HTC qui donc fabriquent des téléphones qui eux vont travailler en partie main dans la main avec deux opérateurs de système, ce qui va faire fonctionner l'appareil, qui sont différents. Puisque sur les HTC, vous pouvez trouver d'un côté certains produits qui seront vendus avec Windows Phone, le service de Windows adapté au téléphone portable. Et puis de l'autre côté, vous en avez d'autres qui vont fonctionner avec Android, qui est le système développé par Google. Là aussi il y a des batailles, des enjeux commerciaux et des stratégies commerciales qui sont particulières, puisque jusqu'à maintenant Windows, enfin plus exactement Microsoft, gagnait de l'argent avec deux produits principalement. Il y avait deux produits qui rapportaient beaucoup, enfin plus exactement trois produits qui rapportaient de l'argent à Microsoft. Tous les autres produits étaient déficitaires, y compris les consoles Xbox. Les trois produits qui faisaient marcher la boutique chez Microsoft, c'était Windows, c'était Microsoft Office, et puis les serveurs d'entreprise développés par Microsoft. Et pour la plupart d'entre vous, peut-être vous êtes étonnés qu'on puisse, on puisse gagner de l'argent avec Windows, parce que Windows, vous le trouvez sur les ordinateurs que vous achetez. Oui, mais parce que quand vous le trouvez sur les ordinateurs que vous achetez, c'est parce que vous les achetez avec l'ordinateur. Simplement, on vous explique pas à chaque fois que vous payez Windows et que vous payez entre 50 et 80 euros le Windows qui est installé sur votre ordinateur, et que même si c'est illégal, en tout cas en France, ça se pratique de cette façon-là. On a là un exemple d'une vente liée qui est tolérée et qui fait que, depuis des années, du coup, Microsoft engrange des royalties à chaque fois qu'un ordinateur est vendu, puisqu'ils ont réussi à imposer, ce que j'avais raconté dans une autre conférence, ils ont réussi à s'imposer comme étant l'operating system, le système qui fait fonctionner l'ordinateur par défaut sur la plus grande partie des ordinateurs, c'est-à-dire au départ des ordinateurs compatibles PC. Et donc du coup pour eux c'était une rente assez confortable. Le deuxième produit donc qui les fait vivre, c'est Microsoft Office, parce que pendant très longtemps ils avaient réussi à tuer tous leurs autres opposants. Ça, c'est un truc qu'il faut rappeler, c'est que dans l'univers de l'informatique, on ne gagne de l'argent que lorsqu'on est en situation de monopole, et donc ceux qui ont les moyens de faire du dumping vont assassiner les autres, ou s'ils ont les moyens, ils vont les racheter et les tuer. Je prends quelques exemples, donc on pourrait prendre l'exemple de la bureautique, où Microsoft, effectivement, a laissé pirater ses suites pendant un certain temps, a bénéficié de son aura au sein du monde industriel pour aussi être imposé sur une partie des ordinateurs. Quand je dis qu'ils ont laissé pirater les suites logicielles, c'est qu'effectivement elles n'étaient pas protégées ou mal protégées, de sorte à ce que les gens repartaient à la maison avec la boîte de disquettes d'installation de Microsoft Office à la maison. Comme ça, ils avaient un programme qui coûtait vachement cher, donc ils étaient flattés d'avoir chez eux un produit qui coûte très cher, qu'ils avaient eu pour rien du tout, et qui fait qu'ils allaient s'auto-former aux technologies de Microsoft, qui font aussi que lorsque vous fabriquer des contenus, et ça m'amène au point suivant. Lorsque vous fabriquez des fichiers en informatique, ces fichiers, je l'évoquais tout à l'heure par exemple, vont correspondre à des formats de données. ces formats de données sont plus ou moins ouverts. Il y en a qui sont fermés et qui sont propriétaires. C'est donc celui qui a créé ce format de données qui décide qui peut ouvrir les informations qui sont générées avec. Et à partir de ce moment-là, eh bien, si vous vous retrouvez dans une situation où celui qui fabrique le logiciel qui vous a servi à faire vos photos, à mettre des informations, des colorisations, etc. dans vos photos, décide que pour lire les photos, on a le droit de passer que par son logiciel, et puis que 10 ans après, il décide de multiplier par 50 le prix du logiciel, vous n'avez pas d'autre choix que de renoncer à vos photos ou de payer 50 fois le prix du logiciel. Et ça, c'est quelque chose qui devient possible lorsque vous êtes en situation de monopole. Aujourd'hui, dans l'univers de l'informatique, c'est un univers qui est peuplé de monopoles, puisque sur les operating systems, on a aujourd'hui un petit redémarrage de diversité, et on pourra revenir éventuellement sur qu'est-ce qui génère la diversité, mais il y a 5 ans de ça, vous aviez principalement 2 operating systems, dont un fortement dominant. Vous avez Windows d'un côté et vous avez macOS d'un autre côté. À côté de ça, vous avez malgré tout d'autres petits systèmes, mais qui du point de vue des utilisations représentaient moins de 1 à 2% du marché, donc les systèmes Linux, FreeBSD, etc. Aujourd'hui, on a un petit peu plus de diversité, notamment parce qu'il y a Android et puis d'autres systèmes dérivés créés par Google, et Google a lancé une espèce de politique de dumping qui déstabilise effectivement en partie ses concurrents. Cette politique, elle est basée sur le fait que Android se base sur du logiciel libre et se distribue comme du logiciel libre, c'est-à-dire que n'importe quel fabricant d'ordinateur ou de téléphone, s'il le souhaite, peut installer Android dessus sans donner un centime à Google. On pourra revenir dessus, mais Google a un modèle économique qui lui permet de retomber sur ses pattes à un autre moment et puis d'aller gagner de l'argent à d'autres endroits et à d'autres moments. Mais de cette façon-là, ils ont pu jouer de leur notoriété, de la qualité de leurs produits, pour attaquer le marché de la téléphonie mobile, le marché après des ordinateurs. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, en réalité, eh bien, Google, au travers d'Android, est le premier operating system qui est utilisé sur des appareils numériques. Je dis bien des appareils numériques. Dans l'univers de la machine du PC, par exemple, c'est toujours Windows qui est en tête. Mais dans l'univers de la téléphonie mobile, eh bien, les systèmes Android sont devenus les systèmes les plus utilisés sur ce qu'on appelle les smartphones, tablettes et autres appareils du même type. Donc du coup, je passe à cette diapo qui évoque un petit peu ce que je viens de dire, en évoquant quand même un truc qui est particulier aux États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, il y a des lois antitrust, donc qui sont censées permettre à un système libéral de fonctionner en système libéral et non pas d'être livré au capitalisme pur et dur. Et alors après, on pourra s'amuser à faire la différence entre libéralisme et capitalisme, et puis où est-ce qu'ils se rejoignent, où est-ce qu'ils sont pas, où ils sont pas du même bord. Mais le principe du libéralisme, c'est de dire que c'est un système de concurrence. Et donc, pour qu'il y ait de la concurrence, il ne faut pas qu'il y ait de monopole. Aux États-Unis, donc, théoriquement, c'est un pays qui protège le libéralisme et qui a donc des lois antitrust. Les lois antitrust font que lorsque un opérateur téléphonique, eh bien, représente quasiment la totalité du marché, eh bien, le gouvernement va intervenir pour casser la structure et réorganiser, relancer un marché concurrentiel. Ce qui est arrivé, donc, je prenais l'exemple du téléphone à bon escient, puisque c'est ce qui s'est passé avec la société Bell, qui a été coupée, cassée en une constellation de petites sociétés qui ne devaient théoriquement plus avoir de relations directes les unes avec les autres, qu'on a ensuite appelé les Baby Bell. Alors, ils ont continué à entretenir quelques petits rapports, mais malgré tout, il y a eu des logiques qui ont théoriquement permis de restructurer un marché concurrentiel. Ceci étant, il ne faut pas se leurrer, le marché concurrentiel antitrust américain, c'est aussi un marché qui permet surtout de protéger la diversité aux États-Unis. C'est-à-dire que les lois antitrust américaines ne protège pas le reste du monde de l'hégémonie numérique américaine et de ce qui est imposé par, effectivement, les... parce que tout à l'heure j'ai cité trois operating systems, Android, Windows, macOS, les trois sont américains. Ça veut dire que, grosso modo, quel que soit l'endroit où on est dans le monde, quel que soit le pays dans lequel on est dans le monde, on doit utiliser des ordinateurs et des technologies numériques qui sont au centre de toutes nos communications, qui sont au centre de toutes nos technologies industrielles aujourd'hui. On doit passer par des systèmes qui les pilotent ou qui permettent à nos appareils de fonctionner, qui sont gérés par un seul et même pays dans le monde. Alors, on sait qu'ils sont tous, on est tous d'accord, ils sont très gentils. Mais, voilà, on a un seul et unique pays qui a la main, a priori, sur tous les operating systems. Vous comprendrez quand même pourquoi, dans des pays comme la Chine, le Brésil, l'Inde, la Russie, etc., on s'intéresse quand même un petit peu à faire fonctionner des trucs comme Linux, parce que Linux, n'importe qui peut mettre les mains dedans et puis adapter sa version à sa main. C'est pour ça aussi que dans la gendarmerie nationale ou un certain nombre de services de sécurité ou de défense en France, eh bien, on utilise des technologies qui sont des technologies, entre guillemets, dites logiciels libres. Parce que ça veut dire que ce ne sont pas des boîtes noires. Un logiciel comme Windows, c'est une boîte noire. Il y a des choses qu'on ne connaît pas du fonctionnement, parce que c'est dans un langage machine qui est compilé, et c'est très compliqué d'aller savoir ce qui est dedans. Que dans les universités françaises et dans les services stratégiques qu'il y a eu en France, par exemple, il y a un logiciel qui a été interdit d'utilisation. C'était le logiciel Skype. Parce que Skype, on ne sait pas comment ça fonctionne. C'est gratuit, ça marche bien, c'est sympa pour voir ses petits-neveux, ses copains ou sa copine qui est restée à plusieurs milliers de kilomètres de là et avec qui on veut avoir un échange visuel. Mais il n'en reste pas moins que ça utilise des technologies dont on ne sait pas comment elles fonctionnent. On ne sait pas par quel serveur passent les informations qui transitent sur le réseau Skype. On ne sait pas comment c'est crypté. On ne sait pas qui c'est décrypté. Donc ça veut dire que si vous êtes sur un secteur stratégique, militaire ou économique ou industriel, et que vous faites une visioconférence avec vos partenaires qui sont en Australie ou en France, même s'ils sont dans le bureau d'à côté, vous ne savez pas par où ça passe. Donc voilà un petit peu des logiques qu'il y a autour de ça. Vous voyez que je mets quand même que l'État serait censé être aussi peut-être à certains moments régulateur au travers de la normalisation. Donc la normalisation, c'est toujours en revenant sur ces logiques de format de fichier, de dire qu'il pourrait y avoir des formats qui sont normalisés, des standards qui sont normés, qui sont ouverts et qui permettraient à n'importe qui de les utiliser. Alors ces standards-là, il en existe. Il en existe et par exemple dans le cadre de la bureautique, eh bien vous avez une initiative qui s'appelait l'Open Document, donc qui voulait faire un document ouvert, qui a présenté donc à l'ISO, l'organisme international qui définit les standards, des formats de bureautique, qui sont donc les formats Open Document, qui sont les formats utilisés par les suites OpenOffice, LibreOffice, KOffice, etc., et en partie notamment aussi par les outils de Google Docs. Donc on a un format qui est ouvert, qui a une définition. La définition d'un format, c'est quelque chose qui techniquement est très compliqué. Quand je dis ça, ça veut dire que pour le format de l'Open Document, eh bien, c'est 600 pages de documentation pour décrire les normes de fonctionnement des différents formats de bureautique qu'on va trouver dans les suites de bureautique LibreOffice. L'intérêt d'un format normé, c'est l'intérêt d'une ouverture à une potentielle concurrence sur les éditeurs de logiciels. C'est aussi le fait qu'on sache comment c'est fait et donc du coup d'entretenir la pérennité des documents. Donc vous voyez que pour les administrations, c'est quelque chose qui peut s'avérer intéressant. Et il s'est trouvé que, par exemple, que l'État du Massachusetts, j'ai pas choisi le plus simple à prononcer, mais je m'en tire pas trop mal, disait que on devait investir, au niveau administratif dans des suites bureautiques permettant d'assurer la pérennité du document et d'être indépendant du fournisseur de logiciels. Parce que si vous utilisez un format, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, un format qui est propriétaire, eh bien, d'une certaine manière, vous êtes dépendant de votre dealer qui vous fournira la dose au prix où il a envie de vous la fournir et quand il a envie de vous la fournir. Avec un format ouvert, on va pouvoir avoir une variété potentielle d'éditeurs ou se dire que si on n'est plus d'accord avec l'éditeur en question, on a peut-être les moyens d'avoir notre propre éditeur. Microsoft a donc décidé de déposer à son tour un format ISO, puisque le Massachusetts disait bah, « là on a un format ISO, on va probablement prendre cette suite bureautique ». Donc ils se sont posé la question de comment ils allaient faire leur migration. Ça avait pris plusieurs années pour l'initiative Open Document à déposer le truc, à passer toutes les étapes de validation. Par miracle, Microsoft a pu passer les premières étapes de pré-validation en l'espace de 6 mois, ce qui prend plusieurs années pour n'importe qui, mais pour eux ça a été super vite. Il y a des gens qui ne venaient jamais voter au truc, qui ont eu des billets d'avion pour venir voter, etc., etc. Donc ils ont eu une pré-reconnaissance de leur format. Ils ont une pré-reconnaissance d'un format. Alors je vous ai dit qu'il fallait plusieurs années. Le document tout à l'heure de LibreOffice, enfin d'Open Document, c'était 600 pages. Les descriptions pour les caractéristiques des documents de Microsoft Office, c'est 6000 pages. Quand on fait une norme qui nécessite 6000 pages de documentation, ça veut dire que vous ne donnez aucune chance à un concurrent d'être en mesure de respecter parfaitement cette norme-là. Vous allez pouvoir la tenir, vous, en interne, parce que vous l'avez développée depuis des années en interne et que c'est déjà intégré dans vos trucs. Mais pour quelqu'un qui partirait à zéro et qui veut intégrer cette norme-là, eh bien, c'est un travail de titan. C'est un coût monstrueux. Mais n'empêche qu'ils ont une prévalidation de l'ISO qui permet à certaines personnes de dire que le format de Microsoft est un format standard, est un format ISO, et que donc du coup on peut l'utiliser dans l'administration du Massachusetts et dans d'autres administrations. Donc voilà un petit peu pour ce truc là. Alors je passe sur Paranoïa 2.0. Paranoïa 2.0, c'est cette idée que les réseaux sociaux sont plutôt ce que j'appellerais sociaux observables. C'est-à-dire que tout ce qu'on met dans un réseau social, quand on est chez Facebook, par exemple, mais ils ne sont pas les seuls, hein, si on est dans Google+, ça sera un peu pareil, eh bien, tout ce qu'on y met est enregistré, traqué, conservé. On ne sait pas pendant combien de temps parti, ils peuvent bien nous dire ce qu'ils veulent, vous ne pourrez pas le vérifier. Eux-mêmes, des fois, ne savent pas exactement toujours où c'est, mais ils ont des outils de recherche qui sont plutôt performants. Mais ce que disaient certains responsables des services secrets, notamment américains du FBI, disaient c'est quand même super ces outils-là, parce qu'ils ont réussi en l'espace de quelques années à collecter des informations que nous on mettait des années et des années à récupérer, en déployant tout un tas de technologies pour écouter les gens et collecter des... Alors que là, en plus de ça, les gens viennent le faire bénévolement eux-mêmes. C'est quand même trop de la balle. Et les gens ne soupçonnent pas forcément effectivement que toutes les informations qu'ils vont mettre sont des informations qui sont traçables, qu'à partir du moment où vous avez un réseau d'amis et que vous échangez avec des personnes, on va pouvoir constituer des graphes, des graphes de faire de la sociométrie pour voir avec qui vous avez des échanges, quand vous avez des échanges, etc. Et vous avez des gens qui aujourd'hui travaillent à profiler les pratiques des internautes, soit à des fins commerciales, soit à des fins politiques. Donc ce sont des choses qui se passent. Vous voyez donc une infographie qui apparaît avec la tête de Kadhafi dessus. Eh bien, c'est pour rappeler que vous avez Amesis, un système développé par une entreprise française qui a été vendu à Kadhafi pendant les printemps arabes. Où on travaillait avec Kadhafi pendant les printemps arabes. D'un côté, à la télévision, dans les journaux, on disait qu'il était très méchant, et de l'autre côté, on lui vendait et on l'aidait à faire fonctionner un système permettant d'observer les réseaux Twitter, les réseaux Facebook, etc., et permettant comme ça de collecter des données pour savoir eh bien, qui étaient les opposants, où étaient les opposants, etc. Donc là aussi, les réseaux sociaux étaient très pratiques pendant les mouvements insurrectionnels, parce que quand les gens se donnaient rendez-vous via Facebook, eh bien, il faut bien penser qu'il y avait des gens qui, sur Facebook, n'étaient pas forcément les amis de mes amis, mais ça, c'est pour faire, là encore, comme je le fais régulièrement, du teasing pour une autre de mes conférences que je ferai plus tard. C'est la dernière. Donc voilà un petit peu cette idée-là. Alors, l'honnête patibulaire, mais presque, c'était aussi pour le dire, et ça rentre dans ce que j'appelle cette paranoïa 2.0, c'est que l'informatique aujourd'hui, c'est un endroit qui peut s'avérer dangereux, et que ces technologies malveillantes peuvent être utilisées par plein de personnes différentes. Alors ici j'ai mis quelques petits mots, il y en a deux en particulier peut-être trois sur lesquels je vais revenir peut-être plus précisément. Le premier, c'est celui qui s'appelle backdoor. Donc ce qu'on appelle un backdoor, c'est de dire que dans un système, on laisse une porte de derrière. Comme vous l'aurez noté si vous êtes féru de séries américaines ou de films à suspense américains, vous aurez toujours remarqué que la porte derrière n'est jamais fermée et que tous les psychopathes sont au courant. Les gens ne le savent pas, mais les psychopathes le savent. La porte de derrière n'est jamais fermée. Et bien là, c'est la même chose. C'est de faire en sorte que dans les logiciels, il y ait ce qu'on appelle des backdoors permettant à des gens qui savent où sont les backdoors de rentrer à l'intérieur d'un appareil, d'un logiciel, pour savoir comment s'en servir ou pour pouvoir observer ce que font les gens depuis l'intérieur. Donc ça existe dans tous les operating systems. Linus Torvald, donc, qui est au cœur du projet Linux, a lui-même été approché et a dit que les services secrets américains, ben, effectivement, lui avaient demandé de mettre des backdoors à l'intérieur de Linux. Il a rigolé parce qu'il a dit, de toute façon, ça se verra. C'est le principe du code ouvert. C'est que à partir du moment où la recette de cuisine elle est connue et que les ingrédients ils sont connus, et ben si ça a un goût autre que celui que devraient générer les ingrédients, à un moment donné vous vous posez une question en vous disant qu'il y a un autre ingrédient qui a été rajouté, on ne nous dit pas lequel. Donc là le principe c'est que ben ça peut pas fonctionner a priori dans le logiciel libre, donc j'anticipe un petit peu sur la suite. Mais voilà un petit peu cette idée-là de ce que c'est qu'un backdoor. Donc on a plein de technologies qui ont des backdoors, y compris aujourd'hui les téléviseurs qui ont une prise HDMI, c'est-à-dire tous les jolis écrans plats qu'on nous vend, etc., qui vont nous permettre de recevoir le câble, etc., etc. Eh bien, le HDMI va permettre comme ça, de cette façon-là, éventuellement, de renvoyer des informations sur ce qu'on regarde, c'est-à-dire savoir si, par exemple, lorsque vous regardez Terminator 2, vous en avez bien acquis les droits légalement, de sorte à ce qu'on puisse vérifier si les DRM, il y avait ça qui apparaissait sur la diapo précédente, je la remets, tac, stop DRM in HTML5. Donc les DRM, et je reviens sur ce que c'est, les DRM, c'est ce qui permet de gérer les droits à l'intérieur d'un fichier. Digital Right Management, ça veut dire. Donc les DRM, c'est ce qui permet de dire vous êtes autorisé à regarder ce film, à garder, le conserver, ou les DRM peuvent agir aussi de façon à autodétruire le fichier au bout de 30 secondes comme dans une célèbre série. Vous avez vu le film une fois et poum, il va s'autodétruire après. Donc voilà un petit peu le principe des DRM. Et ben, la prise HDMI est capable de gérer des DRM en retour, c'est-à-dire de renvoyer des informations et éventuellement, pourquoi pas, bloquer le fonctionnement de votre télévision si vous regardez des trucs que vous n'avez pas acquis les droits pour le regarder. C'est normal après tout. C'est, on va dire, normal après tout. Le problème, c'est qu'en règle générale, ces trucs-là dysfonctionnent. Et que si vous regardez vos photos de vacances et que vous n'avez pas été télécharger vos photos de vacances sur l'Apple Store, eh ben, votre tablette vous dira « Non, non, c'est des contenus qui sont peut-être suspects et comme vous n'avez pas signé le contrat machin ou le contrat truc, eh ben, vous n'avez pas le droit de regarder vos photos de vacances tant que vous ne les avez pas achetées sur notre site. » Je vous garantis que c'est à peine de la science-fiction ce que je vous raconte. Alors, le dernier, alors l'autre terme, c'est le terme de spyware. Le spyware, c'est un petit logiciel qui vous espionne et qui renvoie des informations. Donc ça, les spyware, ça fait souvent partie des trucs qu'on a avec les logiciels qui sont gratuits. Et quand je dis gratuit, je dis pas libre. J'ai pas une différence qui serait à faire entre logiciel libre et logiciel gratuit. Un logiciel gratuit n'est pas forcément libre. Ce qui est dedans, ça peut être une boîte noire, on peut ne pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Et notamment ces fameux petits spyware qui font que si vous utilisez par exemple là encore un logiciel qui sert à visualiser des films, eh bien ce petit spyware-là pourra renvoyer par exemple des informations sur qu'est-ce que vous regardez en général à la télé. Ce qui peut servir éventuellement à des gens qui font du marketing pour faire ensuite du marketing téléphonique chez vous. Puisque à partir du moment où vous regardez un truc sur internet, à quelques mètres près, on sait à peu près où vous habitez. Si une voiture de Google est passée dans votre rue pour photographier votre rue, en même temps qu'elle est passée dans votre rue pour photographier l'ensemble de la rue et vous permettre comme ça ces petites balades sympathiques qu'on va avoir sur Google machin ou Google Earth, eh bien en même temps, leur auto enregistre la présence des réseaux Wi-Fi qu'il y a tout au long de la rue. Et donc, votre réseau Wi-Fi personnel, vous lui avez donné un nom, et bien, tous les réseaux Wi-Fi. Et à partir du moment où quelqu'un se connecte quelque part à partir d'un réseau Wi-Fi, tac, vous avez quelqu'un qui arrive chez vous, il sort son iTruc ou sa tablette machin, il veut vous montrer un truc sur Internet, vous lui filez le code. Donc, à partir du moment où il va aller consulter son compte Google, Google saura qu'il est venu chez vous. Parce que on aura utilisé votre réseau Wi-Fi, et grâce à votre réseau Wi-Fi, on saura où il est. Le réseau Wi-Fi qui va identifier un téléphone qui passe à côté, même si la personne ne se connecte pas dessus, devient potentiellement un mouchard pour dire où vous êtes à peu près 50 mètres près, sans avoir besoin de satellite espion pour ça. Ça fait flipper. Hein. J'y avais même pas pensé comme ça, c'est horrible. Le Darknet, c'est le réseau obscur, l'obscur côté de la force. Alors, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui ont développé plusieurs réseaux, qu'on appelle des Darknets. Les Darknets, ce sont donc en fait des réseaux qui sont ultra cryptés, qui sont difficilement pénétrables, qui peuvent être utilisables de façon à peu près transparente, mais où a priori, si vous y allez, c'est que vous n'avez pas envie d'être connu et reconnu. Et donc sur les darknets, eh ben, il peut se passer plein de choses. Alors il y a plein de gens qui défendent les darknets au nom de la liberté d'expression et puis de la liberté d'information. C'est vrai que quand vous êtes dans un pays où il y a une répression politique et idéologique qui est forte, eh ben, au travers des darknets, vous pouvez faire passer de l'information sans être repéré, quel que soit l'endroit où vous êtes, etc., etc. Mais d'un autre côté, vous avez sur certains darknets des magasins qui s'étaient mis en place, notamment pour vendre de la drogue. Vous aviez des supermarchés de la drogue sur les darknets qui permettaient comme ça à des gens de passer commande, d'acheter avec de l'argent virtuel, mais qui fonctionne pas plus mal parce qu'il y a des gens qui arrivent à le convertir ensuite en argent réel, qui était, alors vous avez peut-être entendu parler pour certains, de ce qu'on appelle les bitcoins. Donc, qui sont des monnaies virtuelles, complètement virtuelles, mais qui ont coté plusieurs centaines d'euros à un moment donné. Et où vous avez donc des gens qui, par l'intermédiaire des darknet, pouvaient commander n'importe quelle drogue, sous n'importe quelle forme que ce soit. Ça leur était livré peu de temps après, de façon vachement plus pratique que si vous commandez un truc que sur eBay, par exemple, ça arrivait sur votre balcon directement, parce que de toute façon, vous aviez payé en bitcoin, donc vous n'aviez pas besoin de rencontrer celui qui allait déposer l'enveloppe avec votre commande à l'intérieur de votre boîte. Donc voilà des réseaux qui ont existé, qui existent, hein, c'est Darknet. Mais qui sont en même temps effectivement des systèmes de protection pour certaines personnes, et que dans les pays où je vous dis, hein, je le redis, où il y a une forte répression, les darknets permettent véritablement de protéger les gens. Petit traité d'autodéfense, une espèce de petite règle de départ: ne pas accepter de se croire dépassé. C'est-à-dire que même si j'ai dit des choses qui vous paraissent parfois compliquées à comprendre ou n'importe quoi, il ne faut jamais penser que l'informatique, c'est inaccessible. faut jamais penser que c'est facile. Ça, c'est certain. À chaque fois que quelque chose en informatique est facile, c'est suspect. Donc vous imaginez que quand il y a des gens qui font des souris avec 3 boutons et des gens qui vous font des souris avec 1 seul bouton, pour moi, la souris suspecte, c'est celle où il n'y a qu'un seul bouton. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est un peu tordu comme raisonnement, mais si vous n'avez qu'un seul bouton, ça veut dire que vous n'avez qu'un seul choix. Si vous avez 2 boutons, ça veut dire que vous avez le choix. Et qu'il y a un bouton qui peut servir à cliquer, puis un bouton qui peut servir à avoir des informations de façon contextuelle. Certaines personnes me disent, oui, mais il existe des raccourcis clavier. C'est vrai, il existe des raccourcis clavier, mais en vérité, j'aime bien ne pas être obligé forcément d'utiliser 2 mains pour un truc que je ne peux faire qu'avec une seule, avec une autre technologie. Un raccourci clavier avec ma souris, ça veut dire que j'appuie sur la touche machin truc en même temps que je clique sur ceci ou cela. Donc à chaque fois que c'est facile, entre guillemets, c'est suspect. Mais ça ne veut pas dire que l'informatique est inaccessible. Elle est de plus en plus accessible. Et il y a plein de choses dont on raconte que c'est parfaitement inaccessible, alors que c'est très accessible. Et je fais toujours de la mauvaise publicité pour Linux en disant que, par exemple, Linux, c'est le système tip-top pour les seniors. Parce que pour la plupart des gens qui vont faire une utilisation basique d'un ordinateur, c'est-à-dire utiliser un navigateur, utiliser un traitement de texte, un truc pour regarder, récupérer les photos et regarder les photos, etc. Et bien ça marche très bien sur un Linux. C'est installé en 1 demi-heure sur un ordinateur où le fabricant n'a pas voulu... On peut essayer d'installer les 2 systèmes sur le même PC, et il y a 2 ans de ça, je vous aurais dit, ouais, en plus de ça, ça prend 1 demi-heure, 3/4 d'heure, vous allez voir telle association à tel moment de l'année, et ils vous font ça en 2 temps, 3 mouvements. Mais il se trouve qu'effectivement, on mettait plus qu'une demi-heure pour le faire, c'était séduisant, c'était tellement séduisant qu'au bout d'un moment, vous vous demandez pourquoi vous avez 2 systèmes sur votre ordinateur, parce que ça sert à quoi d'avoir 2 systèmes sur un ordinateur? Si c'est pour aller faire du web sous Windows, ou aller faire du web sous Linux, ou du web sur Mac OS X. La page, grosso modo, elle se ressemble dans les 3 systèmes de la même façon. Donc juste, vous compliquez la vie et vous faites une étape de plus au décollage. Mais ça permettait effectivement de rassurer les gens pour découvrir. Depuis, eh bien, vous avez Windows 8 qui est arrivé avec une technologie qui s'appelle l'UEFI. L'UEFI qui trouve sa légitimité technique dans le fait que ça permet d'avoir des disques durs de plus de 2 gigaoctets. 2 gigaoctets, si vous convertissez ça en photo de vacances. Non, on ne va pas le faire. Parce que vous n'avez pas de vie assez longue et les secondes ne sont pas assez longues pour que vous puissiez faire des photos toutes les secondes de votre vie pour remplir votre disque dur de 2 terrains. Mais ça veut dire que on a une légitimité entre guillemets technique de le faire, mais il y a une certitude, c'est que depuis qu'ils ont fait ça, et ben c'est vachement plus compliqué d'installer les 2 systèmes. Et c'est, quand je dis vachement plus compliqué, ça veut dire que ça fait des mois qu'on se prend la tête. Alors en installer qu'un seul, on sait bien faire. En installer 2, et ben du coup ça permet de recréer de la peur chez les gens qui seraient dit, tiens, je vais essayer Linux puisque ça mange pas de pain d'avoir les 2 sur le même ordinateur. On peut le faire, mais c'est compliqué, c'est au cas par cas, etc. Donc, mais si vous avez un ordinateur qui a 2-3 ans et qui marche encore, vous verrez qu'un Linux va lui redonner vie, qui va être plus rapide que celui que vous allez acheter. Si c'est pour faire du web et du traitement de texte, en règle générale, ça suffira. Ceux qui font du calcul et de la 3D ou des trucs compliqués, éventuellement, ou du cinéma, etc., ils auront peut-être d'autres problématiques. Mais c'est une autre question que je traiterai éventuellement à part. Prendre le risque de paraître has-been contre le risque de disparaître. Le disparaître, je prie pour dysfonctionner, tout ce qui va pas bien, mais c'est vraiment cette idée que aujourd'hui il y a une course à la modernité qui dit qu'il faut changer d'informatique régulièrement pour rester moderne, qu'il faut changer de logiciel régulièrement pour rester moderne. Aujourd'hui, il y a plein de gens peut-être dans la salle ici qui se disent « Ouais, ça m'énerve parce qu'ils ont dit qu'à partir du 8 avril, c'est dans 15 jours, Windows XP, je ne pourrai plus le mettre à jour et que ça sera à mes risques et périls. » mais je m'en fiche, mon ordinateur il marche bien, ce que je veux aller voir sur le net ça marche bien, et j'ai pas envie de changer de logiciel que ce que j'ai. Eh ben tant pis pour vous. That's life. Ceci étant, si vous avez un XP, là par contre on n'aura aucun problème à passer un Windows dessus. Ça, ça sera finger in the nose. Je vais me tromper forcément, mais je pense que c'est quand même. Non, c'est pas vrai, on peut continuer à utiliser des ordinateurs pendant des années. Cet ordinateur m'est relativement fidèle, il fait un petit peu de bruit, mais ça fait maintenant plus de 5 ans que je l'ai, et je pense que je fais partie quand même des utilisateurs qui sont des utilisateurs relativement exigeants, et c'est une machine qui coûtait moins de 400 euros chez un vendeur lyonnais. Donc voilà. J'évoque rapidement quand même un truc qui s'appelle la neutralité du net. La neutralité du net, c'est cette idée que aujourd'hui, on devrait attendre de nos prestataires d'accès à Internet qu'ils respectent ce qu'on appelle la neutralité du net. La neutralité du net, donc si vous tapez neutralité du net, vous retrouverez cette affiche et que vous verrez, que vous pourrez relire en grand. Mais le principe, c'est de dire qu'un fournisseur d'accès à Internet, ça n'est pas à lui de juger de ce que vous faites sur Internet, de ce que vous racontez, à qui vous le racontez, où est-ce que vous allez chercher de l'information, etc. Lui, son boulot, c'est de vous transmettre les données que vous demandez. Vous le payez pour vous transmettre des données. C'est pas à lui de considérer que les vidéos YouTube, il doit freiner des deux pieds quand il vous les envoie, parce que YouTube, c'est les potes de Google, puisque c'est le capital de Google, et que vous vous appelez free.machin, et que vous êtes en guerre contre Google. Et donc, pour les embêter, eh ben, vous freinez la diffusion des vidéos YouTube sur votre réseau. De la même façon que quand vous êtes un opérateur français qui a choisi un nom de couleur, eh ben, vous allez avoir tendance à faciliter l'arrivée des données qui viennent de Dailymotion plutôt que celles qui viennent de YouTube. Parce qu'on vous l'a dit, avec le redressement productif, eh ben, il ne faut pas vendre Dailymotion. Ça ne rapporte rien, mais ça fait perdre de l'argent, mais il faut le garder. Là, on est fiers d'être français, mais il y a d'autres endroits où on pourrait être fiers d'être français et puis faire des choses qui préservent notre indépendance nationale et industrielle. On est dans cette logique-là. Alors un autre exemple aussi, il y a quelques temps aussi, on s'est aperçu que par exemple le réseau SFR, donc qui va changer de main, compressait à l'insu de ses utilisateurs les photographies qui circulaient sur le réseau de téléphonie mobile, parce que de toute façon les gens ils s'en rendaient pas tellement compte, puisqu'ils n'optimisaient pas leurs photos eux-mêmes. Je vous rappelle que maintenant on vous vend des appareils photo qui permettent de faire des photos de 14 mégapixels, c'est-à-dire que si vous voulez les afficher à l'échelle 1:1 sur votre écran d'ordinateur, ils vous font un écran d'ordinateur de la taille de l'immeuble qui est à la sortie. Donc on voit qu'on a du gâchis en termes de données, et pour un réseau de téléphonie mobile, quand on va avoir des photos de cette taille-là qui circulent pour montrer la fête du Beaujolais nouveau qu'on a fait au bord de la Saône avec les copains, eh bien, on se dit, l'opérateur considère que pour alléger son réseau, pour optimiser son réseau, il peut se permettre de réduire la taille des photos pour que de toute façon, les gens ne les verront pas à taille normale. Donc, il décide pour eux de les réduire. Là encore, c'est une décision qu'il n'a pas à prendre pour les utilisateurs. Surtout si ce n'est pas partie des choses qui sont signalées au décollage. Donc voilà un petit peu ce qu'on appelle cette neutralité. Alors la neutralité, c'est quelque chose qui est défendu aujourd'hui notamment par un site qui s'appelle la Quadrature du Net, mais il y a aussi une fédération de fournisseurs d'accès qui veulent défendre la neutralité, donc qui s'appelle FDN, et dont le représentant local sur la région lyonnaise et stéphanoise s'appelle Ilise. Mais je vous rassure tout de suite, pour l'instant, ils ne fournissent pas véritablement de l'accès. Ils ont la technologie qui est en train de se mettre en place. C'est une fourniture d'accès qui va être possible dans un certain nombre de cas. Mais on est ici quand même, avec les gens d'Ilise, dans des cas de fourniture d'accès très particuliers. On a simplement un réseau qui est effectivement en train de se mettre en place, ce qui n'empêche pas de soutenir et d'adhérer à cette association-là pour justement faire valoir la défense de la neutralité sur Internet. Et puis un dernier truc que je voulais vous montrer pour se, entre guillemets, s'autodéfendre, c'est une adresse, prism-break.org, qui est un site qui va vous permettre d'avoir un certain nombre d'alternatives à des technologies qui méritent au moins qu'on s'interroge sur leur utilisation et leur fonctionnement, voire même qu'on s'en méfie carrément dans certains cas. Donc vous avez d'un côté à gauche les technologies qui sont suspectes, et puis vous allez avoir au milieu des fiches descriptives des différentes alternatives que vous pouvez avoir sur la colonne de droite. Ce que vous allez avoir, en fait, c'est par type d'usage ou de technologie dont vous avez besoin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous dites, ah ouais, mais alors du coup, moi j'ai une adresse Gmail, ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils affichent de la publicité, par exemple la semaine dernière, je lisais un message sur machin qui revenait de vacances au ski, et puis j'avais des publicités pour louer un chalet à la montagne. Ah oui, c'est parce que Google lit votre courrier. Alors, rassurez-vous, hein. Ils n'ont pas un type quelque part aux États-Unis, un mountain machin truc là-bas, qui lit chacun des mails et qui dit ah, là on lui envoie telle pub. Ils ont des systèmes qui automatisent ça, mais n'empêche que bel et bien, ils lisent votre pub, ils lisent votre courrier. Imaginez une fraction de seconde, une petite fraction de seconde, que ça vous arrive dans votre boîte aux lettres. Que à chaque fois que vous recevez un courrier, vous voyez que ce courrier a été préalablement ouvert. Vous voyez comme vous apprécieriez ce genre de truc. Eh bien, pour la messagerie électronique, les gens ne se posent pas cette question-là. Moi, j'ai vu ça, hein, le courrier qui était ouvert comme ça, puisque j'avais un copain qui avait une correspondante en Roumanie dans les années 80. Tous les courriers qu'il recevait de sa copine roumaine avaient été ouverts et refermés. Eh bien, ça donne quand même un sacré coup à la notion d'intimité. Je ne sais pas de quel côté ça avait été ouvert, en revanche, hein, je ne me prononcerai pas. Je ne sais pas si c'était avant de passer une frontière ou après l'avoir passé. Je vais rester neutre sur ce truc-là. Donc, Prism Break va vous filer des alternatives aussi en choix de logiciel et vous dire que tel logiciel pour votre courrier électronique, c'est mieux. Tel logiciel pour aller naviguer sur Internet, c'est mieux. Tel logiciel qui vous permet de conserver tous les mots de passe que vous avez, parce qu'aujourd'hui on a de plus en plus de mots de passe. On se retrouve avec un mot de passe ici, un mot de passe là, etc. Et on finit par plus se rappeler des mots de passe, ou alors, pour se rappeler des mots de passe, on les appelle tous du nom de notre chien, qu'on appelle régulièrement Médor ou Milou. Les pirates et les hackers sont des gens qui sont aussi de fins psychologues et qui connaissent parfaitement bien les comportements humains, beaucoup plus facilement que eux n'y connaissent eux-mêmes, et donc régulièrement ils appellent des gens en disant voilà, c'est le service informatique au troisième étage, je vous appelle parce qu'on a un problème là, sur l'accès à votre ordinateur et on doit faire une mise à jour. Voilà, est-ce que vous pouvez me donner votre mot de passe le temps qu'on prenne la main sur votre ordinateur histoire de faire la mise à jour. Donc vous donnez votre mot de passe du boulot. Et puis le gars vous dit, bah merci, la mise à jour est terminée, c'est parfait. Et donc à partir de ce moment-là, vous lui avez donné votre mot de passe, comme généralement le mot de passe que vous utilisez au boulot avec les initiales de vos enfants, c'est le même que vous utilisez pour votre compte bancaire. Et bien, il n'a plus qu'à aller faire un tour sur votre compte bancaire, qu'il récupérera là aussi d'une autre façon, c'est en vous envoyant un mail, vous disant qu'il y a un problème sur le serveur et qu'il faut vous connecter pour changer votre mot de passe. Donc vous allez y arriver sur une page qui ressemble tête coupée à la page de votre banque. Et vous allez en toute confiance rentrer votre mot de passe, et là encore, le gars qui sera derrière récupérera le mot de passe, et il aura 5 minutes le temps que vous réalisiez que vous êtes fait pigeonner, il prendra les 5 minutes pour aller détourner une partie de l'argent d'une manière ou d'une autre. Ça fout les chenons, ça aussi. Donc, sur prism.bref, vous avez quand même pas mal de trucs qui vous donnent comme ça des alternatives et qui répondent comme ça à tout un tas de solutions. Et puis, allez, on va terminer avec la guéguerre entre les systèmes. Oh, là, j'en ai encore une. Donc, ils disent tous les deux qu'ils sont les meilleurs, qu'ils sont vachement bien, et puis qu'ils sont devenus marrants, qu'ils sont cool, qu'ils sont décontractés. Et donc, ils s'envoient des vannes... des vannes pourries, hein. C'est deux garçons quand même, imaginez là, on voit pas en bas, mais ils pourraient être en train d'essayer de pisser tout l'un que l'autre. Hein. Je suis démagogue. Et donc, il y a la marque à la fin, j'ai pas interrompu. Donc, ça c'est la deuxième version où elle montre que chacun d'eux montre qu'ils sont cool. Et que, en fait, l'idée c'est de montrer que Linux aussi est cool. Pas plus, pas moins en vérité. Donc, notamment, elle leur a rappelé au passage que, en gros, une fois sur deux, une fois sur deux, elle rappelle grosso modo qu'une fois sur deux, lorsque on va sur Internet, et ben, on passe par des ordinateurs qui fonctionnent sous Linux. Donc, ça veut dire que ça marche plutôt pas mal, et puis que ça fonctionne dans plusieurs millions d'entreprises. Donc, voilà un petit peu pour cette présentation. Je l'espère qu'il vous aura intéressé. J'ai encore été long. Mais où je suis disponible pour répondre à vos questions maintenant et après. Merci.